l'école est l'objet d'un surinvestissement dans notre pays, de la part des familles, bien sûr. On lui demande tout à la fois de former les citoyens, de former un métier, d'assurer l'insertion professionnelle des jeunes. Maintenant, on lui demande de préparer au brevet informatique, on lui demande de préparer au certificat de conduite. Donc un certain nombre de demandes de la part de la société. Et il y a donc, par rapport à ces attentes, notamment l'attente des familles, un fort investissement. Alors, bien que notre système repose sur une idée, sur un principe méritocratique, il apparaît que la réalité est un peu moins égalitaire. Il y a 140 000 jeunes qui sortent tous les ans du système éducatif sans avoir obtenu un diplôme du second degré. Christian Forestier, lorsqu'il était recteur ou inspecteur général, enfin, comme il a occupé toutes ses fonctions, disait à un moment « Le système scolaire français est le meilleur pour 50% des jeunes, et pour le reste, l'autre moitié, c'est une catastrophe. » Alors, le thème de ce soir, c'est donc « Qu'est-ce qu'une école juste ?» Alors, pour répondre à cette question, mais également pour voir si les pays d'Europe font mieux que nous, j'ai donc demandé, et je les remercie, la participation de spécialistes. Alors sur votre droite, c'est Marie Durubella, qui est professeure de sociologie de l'éducation à Sciences Po, qui a édité plusieurs ouvrages sur l'école, l'école des filles, sociologie de l'école, l'inflation scolaire, et le dernier ouvrage, Le mérite contre la justice. Sur votre gauche, Éric Charbonnier, qui travaille à l'OCDE, où il est analyste à la direction de l'éducation, et qui a beaucoup travaillé sur l'enquête qu'on appelle PISA, c'est-à-dire le programme international de suivi des acquis des élèves. Et il nous dira, en fonction des résultats et des statistiques sur lesquelles il travaille, si les pays européens font mieux que nous, et peut-être, d'une manière plus compréhensible, comment ils arrivent à faire mieux que nous, si c'est le cas. Voilà, je vous remercie. Donc Marie, tu vas commencer, je vais donc te laisser au maximum 30 minutes, ensuite Éric Charbonnier interviendra, et ensuite il y aura des questions à la salle. Bonne soirée.
Merci. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Peut-être que je vais être très près du micro, je n'aime pas ça du tout. Donc, qu'est-ce qu'une école juste? C'est une très vaste question. Il y a des tas de façons d'aborder cette question, parce qu'il y a plusieurs principes de justice, on va les venir. Et donc, moi, j'ai choisi de l'aborder par le thème de la méritocratie. Le principe du mérite est un principe, ce n'est pas le seul, on va y revenir, parce que je viens de terminer, effectivement, un livre là-dessus, et c'est moins souvent abordé que... Enfin, je voulais vous faire un topo du genre les ouvriers sont ci, les cadres sont ça, etc. Je pense que c'est une façon différente d'aborder cette question. Alors, pourquoi j'ai travaillé récemment sur la méritocratie? Parce que c'est à la mode, je veux dire, un peu bêtement. Je veux dire, il y a une montée du thème de la méritocratie, vous l'avez vu, bien sûr, en 2007, hein, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, hein, qui était « Travailler plus pour gagner plus », c'est « On sera récompensé ». Donc, il y a vraiment une montée du thème du mérite. On sait aussi, dans la fonction publique, qu'il y a un certain nombre de mesures, hein, et avec les élèves également, censées récompenser leur mérite. Donc, il m'a semblé que c'était un peu, ça commençait un peu à être préoccupant, cette montée du mérite, et j'ai voulu l'analyser. D'autant plus qu'elle est assez consensuelle. Alors, elle est assez consensuelle, parce qu'on pourrait trouver des citations, Jean-Pierre Chevènement, etc. Enfin, je ne fais pas d'histoire. Elle est consensuelle pour une bonne raison. Pour une bonne raison, c'est que, psychologiquement, on a besoin du mérite. On a besoin du mérite. Quand on élève nos enfants, on leur apprend que s'ils se conduisent bien, ils seront récompensés. Et c'est un peu le principe de l'éducation. Et nous-mêmes, on se bougerait souvent un peu moins si on ne pensait pas que nos mérites seront récompensés. Donc, au niveau psychologique, il y a une certaine fonctionnalité du mérite. Mais la fonctionnalité, elle est aussi idéologique. Nous sommes dans des sociétés où théoriquement tout le monde, on est tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, hein, mais c'est Coluche, hein, c'est-à-dire il y a des inégalités. Et pour réconcilier ces deux principes, entre l'égalité de tous et la réalité des inégalités, il faut trouver quelque chose, et ce quelque chose, c'est le mérite, donc c'est tout à fait pratique, hein. À cette fonctionnalité psychologique s'ajoute une fonctionnalité idéologique, disons, ce qui explique que, in fine, tout le monde est grosso modo, d'accord avec la méritocratie, avec des nuances, on y reviendra éventuellement dans la discussion. Donc tout ceci explique, à mes yeux, le pouvoir de séduction qu'exerce le principe méritocratique. Du coup, on est amené à s'intéresser à l'école, hein, ce que je faisais déjà depuis quelques années, parce que dans les sociétés modernes, particulièrement en France, l'école va être chargée de la double tâche, très importante, stratégique, hein, de sélectionner sur une base méritocratique les élèves, et aussi, c'est moins souvent évoqué, de les convaincre que cette sélection est juste et méritocratique précisément. Si cela est le cas, si la sélection se faisait sur une base méritocratique, alors on s'attend à ce qu'il n'y ait plus de différenciation sociale, de réussite et de carrière, hein, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des corrélations. Et donc, tout ça, évidemment, est interpellé par les statistiques, hein, que produit régulièrement un certain nombre d'organismes, qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y a de fortes relations entre l'origine sociale des enfants et leur réussite. Et ce qui frappe en particulier, c'est le caractère très précoce de ces inégalités. Dès qu'on peut mesurer les petits-enfants, on voit apparaître des inégalités sociales importantes, et on se dit quand même, invoquer le mérite avec des gamins de 2 ans, ça paraît quand même un petit peu gênant. On sait ensuite que ces inégalités, elles sont cumulatives, hein, ceux qui prennent du retard des primaires, il est très rare qu'ils arrivent à les rattraper, donc on a un phénomène de boule de neige, et ensuite viennent se greffer des inégalités tenant au choix scolaire, hein, les options, les établissements, etc. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et ces choix, le rapport avec le mérite, voilà, est quand même assez douteux. Hein. Donc on se dit, au total, ça va produire des carrières scolaires dont le rapport avec le mérite est assez lointain. Et c'est d'autant plus vrai que les élèves sont évalués à l'école, il y en a sans doute parmi vous qui sont enseignants, je ne pense pas qu'un enseignant soutiendrait avec fermeté que les notes mesurent le mérite comme un thermomètre mesure la température. On sait très bien d'abord qu'on n'observe et on n'évalue que certaines qualités des élèves, pas toutes, hein, plein de qualités et de compétences qu'on n'évalue pas, donc hors jeu pour la mesure du mérite. On sait aussi que les notes sont variables selon les établissements, on sait que les notes sont souvent négociées dans le contexte de la classe. Donc il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels on sait bien que ce n'est pas une pure mesure du mérite. Et puis ce qu'on sait aussi depuis les années 80 dans notre pays, c'est que l'école pourrait se contenter d'être neutre. Mais non, elle rajoute des inégalités, et là c'est tous les travaux sur les effets maîtres, sur les effets établissements, hein, qui montrent que ces effets de contexte, comme on dit dans notre jargon, renforcent, hein, les inégalités scolaires. Mais il y a plus troublant encore. Il y a plus troublant encore, c'est qu'on se dit, alors ceux qui réussissent à l'école, est-ce qu'ils le méritent vraiment? J'ai comme vous assisté à des discussions dans les salles de professeurs, et on entend souvent les professeurs disent oui, d'accord, il y a des bonnes notes, mais bon, ils disent pas, on ne dit plus qu'un élève est doué, parce qu'évidemment c'est complètement incorrect, évidemment. On se dit, oh, celui-là il a quand même des facilités. Puis celui-là on dit, oh oui, il travaillera. Donc c'est un peu mystérieux quand même ce qui fait qu'un élève réussit. Et on se dit, si la réussite ne dépend pas uniquement et de façon bien identifiable de la responsabilité individuelle, là aussi c'est bien embêtant pour le mérite. Donc on sort assez troublé de ce survol des carrières scolaires. On se dit, on a de fortes inégalités précoces, dont l'école est en partie responsable, et puis la mesure du mérite, ça apparaît comme entachée d'arbitraire et peut-être comme une gageure. Une voie, et à vrai dire la voie privilégiée aujourd'hui par rapport à cette inégalité, c'est de se dire, on va renforcer l'égalité des chances. L'égalité des chances a connu son heure de gloire parallèlement à la montée du mérite, évidemment, c'est son bras armé. Donc on va renforcer l'égalité des chances par des mesures de discrimination positive pour que triomphe enfin le vrai mérite. Voilà. Il n'y a plus de corrélation donc entre l'origine sociale des enfants et leur réussite scolaire. Et dans cette perspective, donc, l'égalité des chances, on peut y arriver, on va mettre des moyens le plus possible, etc. Bon, avec des mesures fort respectables, hein. On va informer les familles, égaliser la qualité de l'offre, etc. Tout ça est évidemment très très bien. Mais est-ce que c'est vraiment très sérieux? C'est-à-dire que ce faisant, on postule de manière implicite qu'au départ, il y a toujours ce « au départ » un petit peu mystérieux derrière, donc au départ, dans tous les milieux sociaux, les élèves sont également capables et désireux de grimper les échelons de la hiérarchie scolaire et donc de finir à Polytechnique, ce qui est toujours l'emblème dans notre pays d'égalité des chances, hein, mais tous allaient à Polytechnique, et certains ont été injustement barrés, c'est aussi ce qu'on dit concernant les inégalités hommes-femmes, hein, ils ont été discriminés, c'est pas juste, c'est des victimes, et on va corriger avec les mesures que vous connaissez. Pourtant, ce postulat sympathique, évidemment, ils étaient tous capables, ils voulaient tous, ils en rêvaient, etc., est-ce que c'est vraisemblable dans la société telle qu'elle est? Et ma thèse, c'est que c'est d'une certaine manière un déni du social. C'est-à-dire que c'est une façon un peu désinvolte de traiter les inégalités sociales et qui n'est pas très sérieuse. Pourquoi c'est pas très sérieux? D'abord parce que, est-ce que tous les élèves sont également capables? Eh ben non. Et quand je dis ça, c'est pas un truc scandaleux, ça revient à souligner ce que tout le monde sait, c'est que le développement cognitif des enfants, il se fait dans des environnements qui sont inégaux. Si on prend au sérieux les inégalités sociales, alors on prend ça au sérieux. Et toute la psychologie sociale le montre, les petits-enfants se développent inégalement avec tous les paramètres qui font pour réussir à l'école, que ce soit le langage, la neutralisation et le développement cognitif en général. Tant qu'il y a des inégalités sociales, ils vont être inégaux. Est-ce qu'ils vont après désirer la même chose? Même topo. Est-ce qu'on désire tous la même chose? Est-ce que tout le monde rêve d'aller à la Polytechnique? C'est pas sûr, parce qu'en général, les projets se forment par rapport à un point de départ. Par rapport où on est, on essaie de monter un peu. Mais tout le monde ne rêve pas de faire le grand saut pour un certain nombre de raisons. Qu'est-ce qui très bien, là aussi, la littérature, parce qu'on a peur de s'occuper de sa famille, etc. Donc, ils sont tous capables, ils en rêvent tous, c'est pas sûr. Alors, quand je dis ça, évidemment, ça ne revient pas à entériner les inégalités. Elles sont sociales. Mais disons, ça amène à souligner que tout ne se joue pas en termes de discrimination et d'obstacles qu'il suffirait d'abaisser. Pour certains enfants, il y a toujours sans doute eu des obstacles. Ils avaient le même niveau, ils voulaient le faire, ils ont trouvé des obstacles, ok, on va les aplanir, pas de problème. Mais sinon, il me semble que c'est vraiment un ethnocentrisme de dominant, quoi, pour prendre un peu de jargon, ou encore un aveuglement idéologique, qui nie l'existence d'inégalités sociales fortes et l'impact de ces inégalités sur le développement des enfants, à la fois de leurs attitudes et de leurs projets, qui peut amener à penser que finalement, des mesures correctrices, en général mineures, vont suffire à égaliser les chances. Mais évidemment, c'est bien plus facile de faire des dispositifs de type Sciences Po, des dispositifs de type Zen, que de condamner le fait que ce qui est injuste véritablement, c'est que certains enfants trouvent dans leur berceau des conditions aussi inégales. Et ces dispositifs de discrimination positive sont évidemment confortables parce qu'ils ne touchent le système qu'à la marge. En général, ils ne touchent pas au cadre de la compétition. Par exemple, les mesures concernant les grandes écoles sont très sympathiques, mais évidemment, ça ne change rien au caractère hiérarchisé des grandes écoles, qui posent d'autres problèmes, à mon avis, d'ailleurs, que la seule justice. Donc, c'est des correctifs à la marge, optimistes ou faussement optimistes, qui disent, voilà, on fait quelque chose. On fait quelque chose, mais à mon avis, on reste largement loin du monde. Donc, en ce sens, l'idéologie méritocratique et son bras armé, l'égalité des chances, sont critiquables. Mais il y a aussi tout un autre volet, et que je ne développerai moins aujourd'hui, sous l'angle duquel on peut aussi critiquer cette hégémonie du mérite, c'est quand on sort de l'école. Et quand on sort de l'école, parce que nous, notre grand principe de justice, c'est juste que les diplômes soient sanctionnés. De fortes relations formation-emploi, le fait que les plus diplômés soient mieux payés, ils seront toujours mieux payés, mais globalement ça marche quand même assez bien, c'est ce qui, à nos yeux, symbolise la justice de ce système méritocratique. Bon. Toute la question est de savoir si y a une relation entre le mérite scolaire et le mérite professionnel. Est-ce que les qualités qui ont été sanctionnées par des diplômes sont les mêmes que celles qui font qu'on est un travailleur efficace, parce que c'est ça vraiment la logique méritocratique aussi, c'est les plus aptes aux meilleures places, comme ça, efficacité globale, tout va bien, on réconcilie l'efficacité d'équité, c'est vraiment l'idéologie enchantée. Mais est-ce si sûr? Alors, on dispose sur ce point d'un certain nombre d'analyses d'économistes, en général, sur les déterminants des salaires, qui nous disent qu'est-ce qui est récompensé par les salaires, très intéressant les salaires, parce que c'est le mérite tel qu'il est reconnu par le marché du travail, qui existe, et tout ne se joue pas à l'école. Le mérite, il est reconnu, in fine, sur le marché du travail. Et on voit à ce moment-là, si on étudie les déterminants des salaires, que les salaires, souvent, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on considère, notamment à l'école, comme le mérite. On va récompenser plus certaines qualités, parce qu'elles rendent les gens plus efficaces, mais ça peut être des qualités qu'on trouve qui ne sont pas trop des qualités. Par exemple, l'agressivité dans certains postes, ou au contraire, un grand conformisme. Parfois, on récompense aussi des qualités physiques, et après, il y a aussi des phénomènes de discrimination, etc. Donc, le mérite en acte, tel qu'il s'exprime dans les salaires, n'est pas forcément moral. Il est ce qu'il est, c'est ce qui rend les gens efficaces, et on récompense ça pour cette raison. Voilà. Donc, c'est le marché du travail et les employeurs qui définissent, le mérite, l'employabilité, alors évidemment, il y a un peu de savoir, souvent, mais pas uniquement. Donc, les employeurs, pour valoriser des qualités, donc, ils n'ont pas vraiment de rapport avec les titres scolaires, avec ce que les titres scolaires sont censés sanctionner. Donc, il y a ça qui joue. Et puis, ce qu'on sait quand on étudie les carrières professionnelles des personnes, c'est qu'il y a beaucoup d'aléas. La conjoncture, en particulier, joue beaucoup. On sait bien que les jeunes diplômés très brillants, très méritants d'aujourd'hui n'auront pas les mêmes chances que leurs homologues des années 70. Ils sont méritants pareil. Ce qui montre bien qu'il ne suffit pas d'être méritant et d'avoir tous les signes d'ailleurs qui en attestent, hein, pour s'insérer convenablement. Donc ça vous paraît sans doute un tissu de banalité, mais ça interpelle tous les discours qu'on envoie aux personnes en disant « rendez-vous employable ». Cette thématique de l'employabilité qui renvoie sur les personnes la responsabilité de leur devenir professionnel. Hein, c'est formez-vous bien, bougez-vous, et voilà, et vous serez récompensé. Je le mérite. C'est quand même pas tout à fait comme ça. Hein. Il y a des aléas purement aléatoires, il y a des effets de génération, il y a des effets de conjoncture économique. Donc, ceci, évidemment, pose beaucoup de problèmes, et à mon avis, il y a beaucoup d'effets pervers parce que ça pénètre jusqu'à l'école. J'y reviendrai à la fin. Donc, conclusion, dans la vie professionnelle, aussi, si on peut dire, il ne suffit pas d'avoir du mérite pour réussir. Hein, c'est vraiment un point très important. C'est davantage les cours du marché, les cours au sens des cours de la bourse, hein, dans tel ou tel contexte, qui vont donner au mérite leurs sanctions économiques et sociales. Alors, on dira, mais comme ça ne va pas, il faut revoir tout ça. Et il faut essayer de resserrer, par exemple, les relations formation-emploi. Hein, chaque fois qu'on voit les statistiques du CEREC qui montrent qu'il y a plus de la moitié, beaucoup de filières, en particulier des étudiants qui s'insèrent dans des domaines qui n'ont aucun rapport avec la formation, ou qui sont déplacés, autre thème tout à fait pas quitté à débattre, bien entendu, on dit qu'il faut corriger ça, réarticuler plus étroitement, etc. Donc, il faut faire advenir plus de mérite. Hein, c'est souvent la tendance qu'on a dans notre pays où le mérite est assimilé à la justice. D'ailleurs, je suis pour ça. J'ai intitulé mon livre « Le mérite contre la justice », parce que c'est une grandeur, c'est pas parce que c'est contre la justice. Mais est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'un régime de pur mérite serait vivable? La question qu'on peut se poser, et ma réponse est non. Enfin non, sans doute non. Les chercheurs, qu'on est sérieux, on ne dit jamais oui ou non, mais sans doute, voilà, sans doute. Pourquoi? D'abord parce qu'à mes yeux, il n'y a pas moi, il n'y a que moi qui dis ça, il y a d'autres collègues qui le disent aussi, parce qu'à mes yeux, ça entraîne une perversion des missions de l'école. Parce que quand on promeut le mérite, l'égalité des chances, etc., ça hypertrophie ce qui n'est qu'une des fonctions de l'école, à savoir la sélection des élèves, le classement des élèves. Or, la sélection, l'excellence, etc., la seule logique de promotion individuelle des élèves ne peuvent pas être les seules priorités de l'école qui... C'est bien d'autres fonctions, parce que souvent l'année dernière, on s'en fiche, hein, ceux qui ont montré à 5 ans qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils ne sont pas méritants, ils sont punis, point, on s'en occupe. Donc, parce que l'école a théoriquement un souci de formation, d'éducation, hein, pas simplement de préparation à l'emploi, elle ne peut pas être un vaste espace de compétition, quoi final. Donc, une école du pur mérite, hein, qui mettrait en avant les inégalités entre les élèves, évidemment, à mon avis, abandonnerait des pans entiers de sa mission. En outre, une école du pur mérite, dès lors qu'elle est calée sur l'après, sur la vie professionnelle, eh bien, est amenée à adopter une mesure très restrictive du mérite. Par exemple, dès lors que dans la vie professionnelle, les mathématiques ou les sciences payent, entre guillemets, plus que la philosophie, ça va entraîner toute une hiérarchie des disciplines scolaires qu'on peut trouver éminemment discutable. Je veux dire qu'il peut changer, parce que peut-être un jour on dira que les financiers font plus de philosophie, etc. Donc tout ça, on voit bien que c'est complètement arbitraire. Mais en tout cas, le fait que l'école soit à la remorque de cette fonction économique amène à toute une hiérarchie des disciplines qu'on peut trouver extrêmement dommageable. Et elle entraîne évidemment, comme vous le savez, chez les élèves, une logique extrêmement instrumentale, utilitariste. Hein, on travaille pour ce qui paye et ce qui va payer, donc ultérieurement, chez les enfants et bien sûr chez leurs parents. En plus, ces derniers points, d'autres sûrement, cette prééminence donnée à la logique du mérite introduit des gaspillages toute la vie durant, parce que cela donne des rentes à certains diplômes hein, obtenus à 20 ans ou à 22 ans. Alors, par exemple, justement, les normaliens, regardent peut-être, mais aussi enfin, toutes les grandes écoles, hein, où ils sont sanctionnés à un âge très jeune, hein, et puis voilà, après le tapis rouge, c'est évidemment c'est un gaspillage terrible, puisque les qualités des individus évoluent, on n'a pas toujours besoin des mêmes qualités sur les postes, etc. Donc, on fait un gaspillage terrible. qui étonne d'ailleurs énormément les observateurs étrangers, hein, comme des regards du système français. J'avais discuté il n'y a pas longtemps avec un collègue américain qui disait qu'il avait été stupéfait dans une réunion, enfin assez chic qu'il avait été il y a un certain temps, de voir Giscard d'Estaing, président de la République, se présenter par ses titres scolaires. C'est une élève de grande école. Il ne disait pas « je suis président hein. ». Bon, ça, vraiment, les observateurs étrangers sont complètement sciés hein, par cette importance. Et donc, ce même, c'est Souleymane, hein, si vous voulez lire son ouvrage, qui analyse comment c'est une source d'inefficacité, hein, même pour l'économie française. Hein, c'est vraiment une rigidité tout à fait perverse. Donc ça, c'est les effets... J'ai encore 10 minutes. Hein, c'est ça que je crois que tu venais me battre le rappel. Ok. Donc, première raison, hein, hypertrophiée, donc voilà, ça pervertit l'émission de l'énergie. Deuxième raison qu'on peut invoquer, elle est aussi assez dans l'air du temps, c'est que ça entraîne des coûts dans le monde du travail. On a beaucoup parlé ces dernières années, enfin ces derniers temps même, hein, des tensions dans certains environnements de travail hyper compétitifs. Et ça rejoint une littérature qui est ancienne, hein, qui a maintenant, je sais pas, Ehrenberg, Goljak, c'est le début des années 90, hein, sur ce qu'ils appelaient le culte de la performance. Hein. Et le culte de la performance, il n'a fait que s'amplifier. Hein. On a maintenant tout un imaginaire de la performance, avec l'entrepreneur qui réussit, qui prend des risques, qui a un rapport décomplexé à l'argent, qui le montre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est quand même beaucoup accru. Alors, il y a aussi des raisons internationales, etc. Donc tout ceci introduit dans la vie professionnelle hein, une tension avec un impératif d'excellence qui doit être géré par les individus, hein, c'est aux individus, ils doivent être employables, ils doivent être excellents, ils doivent être toujours au top, hein, et ceci, évidemment, entraîne des effets pervers qui ont été dénoncés récemment avec un certain nombre de manifestations individuelles ou collectives que je ne développerai pas. Donc, on a des coûts psychologiques extrêmement forts hein, dans le monde du travail, mais là encore, hein, l'idéologie méritocratique a beaucoup d'avantages, parce que c'est la faute aux individus, hein, ils ont un sujet, on va y éviter, etc., et ceux qui ne se bougent pas, après le développement d'une attitude de blâme, il n'y a qu'à voir tous les discours sur les faux chômeurs qui se remuent pas assez, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fonctionnel dans le contexte actuel. Donc c'est commode, hein, tout ça est extrêmement commode, c'est la responsabilité individuelle, il n'y a plus de société, c'est la responsabilité individuelle. Ceci étant dit, peut-on pour autant, et je terminerai par là, se passer du mérite? Peut-on se passer du mérite? Ben, c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus vu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire qu'un monde, y compris les travailleurs le disent d'ailleurs, disaient les belles analyses de François Dubé à Justice, hein, des travailleurs, tout le monde veut être un peu reconnu. Hein. Les gens veulent que leur mérite soit reconnu. Et on ne peut pas vraiment rayer de la carte complètement ce principe de justice, hein, même si c'est cruel, parce que ça aiguillonne les gens, qu'il faut bien des motivations, qu'il faut le matin, etc., etc. Donc si on ne voit pas d'alternative hein, à une certaine méritocratie, tout en admettant qu'une méritocratie parfaite serait non seulement injuste, mais invivable, eh bien, la conclusion qui en découle est claire. Ce n'est pas le principe de mérite qu'il faut rejeter, mais son caractère hégémonique. Hein, c'est l'usage excessif qu'on en fait par rapport à d'autres principes de justice qui existent aussi. Alors, ça devrait être évident, évidemment, au sein du monde scolaire, puisqu'au sein du monde scolaire, il doit y avoir quelque part une logique méritocratique, mais il y a aussi une logique d'égalité d'attention. L'enseignant se doit à tous, égalité de traitement, entre guillemets, ou d'attention portée aux élèves, respect. On peut trouver d'autres logiques qui doivent intervenir en complément, en articulation avec le principe méritocratique. Alors vous direz, oui, bon, d'accord, ça c'est très consensuel. Pas tant que ça, parce que dans les politiques éducatives, on fait des choix. On fait des choix, c'est-à-dire que, par exemple, si on promeut des dispositifs d'égalité des chances, logique méritocratique, ça peut-être creuser les inégalités entre les élèves, principe d'égalité. Hein. De même, si on assure une formation solide réellement commune, socle commun, etc., logique d'égalité, peut-être que ça va soit bousculer les libertés, soit au contraire, justement, empêcher certaines mérites de s'exprimer. Donc, on est toujours en train de balancer entre des principes de justice. Donc, la notion d'école juste, elle est mouvante. C'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse claire à cette question. Donc, elle est mouvante. Il y a plusieurs principes de justice. Et ce qui est évidemment très embêtant, c'est qu'elle est socialement non neutre, comme on dit. C'est-à-dire que les meilleurs élèves vont évidemment privilégier la logique méritocratique. Hein, et si c'est par hasard les parents des meilleurs élèves qui poussent les décisions ou les députés qui ont les enfants qui marchent bien, etc., ils vont pousser la logique méritocratique. évidemment, elle a des avantages. Hein. Les plus faibles seront en général davantage attachés à garantir un bagage commun à tous, etc. Donc, c'est pas si simple ça, cette affaire-là. Il peut y avoir donc, des tensions sociales, politiques, hein, autour de l'école. On pense toujours que l'école, tout le monde est d'accord, c'est consensuel, tout le monde veut l'égalité, mais pas du tout, évidemment. Hein. On a ces tensions entre principes de justice. Donc, c'est pour ça que le vague consensus autour de l'égalité des chances, hein, auquel on assiste actuellement, me paraît finalement assez conservateur, hein, parce que c'est une façon de s'accommoder de ces tensions en les résolvant un petit peu au coup par coup, et bon, voilà, de façon un peu gentille, et donc tout le monde est d'accord. Hein, donc on va faire par exemple des mesures pour les grandes écoles, hein, il y en a plein. Bon, évidemment, on est bien clair, je pense, hein, que c'est ponctuel, que c'est tardif, que ça convainc plutôt qu'on a fait ce qu'il fallait, etc., et que c'est plutôt, mais ça, l'Europe le souligne aussi dire maintenant, il y a beaucoup de rapports de l'OCDE qui déplacent un petit peu le curseur de ce côté-là, c'est bien plus au niveau de la petite enfance hein, qu'il faudrait réagir, ou bien dans des mesures carrément de resserrement des inégalités. Donc, je pense que le consensus autour de l'égalité des chances est plutôt un peu dangereux, parce qu'il amène à enterrer la question des inégalités tout court.
Donc l'OCDE regroupe 30 pays industrialisés, donc bien sûr il y a les pays européens, mais il y a aussi le reste du monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, les pays asiatiques comme le Japon et la Corée, ou l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc ça permet vraiment d'avoir un panorama de tous les systèmes d'éducation du monde, et ce qui est fascinant, c'est que d'un pays à l'autre, les choix politiques faits par les décideurs vont être très très différents en matière d'éducation. Les principaux travaux de l'OCDE, ce qui a fait connaître un petit peu les comparaisons internationales, c'est l'étude PISA qui est sortie en 2000 et qui compare finalement les performances des élèves à 15 ans en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Et l'autre produit qui sort chaque année, c'est Regard sur l'éducation. C'est plus d'une trentaine d'indicateurs qui permet justement de comparer tous les pays du monde et d'avoir un panorama des forces et des faiblesses des systèmes d'éducation. Avant même de parler des inégalités, il est intéressant de voir la situation de la France, parce qu'on a tendance ces dernières années à entendre que le système d'éducation français est médiocre, que c'est le plus mauvais du monde, que c'est forcément mieux ailleurs, que la Finlande est le pays de référence, le seul pays qui a un bon système d'éducation. Et quelque part, on est un petit peu gêné à l'OCDE par cette déviance de l'étude PISA, car ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité des chiffres déjà. Quand on regarde les résultats de la France dans l'étude PISA, on voit que la France se situe au milieu des pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on peut être déçu, éventuellement peut-être que l'image qu'on peut avoir du système d'éducation français était que la France était un des meilleurs pays du monde en termes d'éducation et que là on se retrouve juste au niveau de la moyenne. Mais on n'est pas dans une situation où la France est le pays qui a forcément les plus grandes difficultés, même si bien sûr il existe un certain nombre de problèmes. Si on regarde de plus près le système d'éducation français, on peut parler d'inégalité, mais déjà d'inégalité structurelle. Quand on regarde juste un indicateur comme le financement des systèmes d'éducation, on constate que la répartition de l'argent est complètement différente en France d'un niveau d'éducation à l'autre. La France, par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, dépense 20% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE pour l'enseignement secondaire. Elle dépense 15% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE pour l'enseignement primaire. Les universités manquent de ressources alors que les grandes écoles ont beaucoup plus de moyens. Donc on voit bien que déjà, quand on fait cette comparaison mondiale, on constate que la structure de financement en France est un petit peu atypique par rapport à la plupart des pays de l'OCDE, où en général, plus le niveau d'éducation augmente, plus le niveau de ressources également augmente. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu atypique. On a cette différence aussi, toujours dans ce côté atypisme français, dans l'enseignement supérieur. Si vous regardez dans la plupart des pays du monde, vous avez les universités qui sont les formations les plus prestigieuses. En France, on voit souvent que les grandes écoles sont les formations les plus prestigieuses, qui a une différence très marquée par rapport aux différents pays. On constate aussi dans la participation des entreprises. Les entreprises sont intéressées pour participer, pour donner des ressources aux grandes écoles. Elles sont intéressées aussi pour donner des moyens aux formations plus courtes comme les IUT et les LSTS. Et on constate qu'il y a un manque de partenariat entre les entreprises et les universités. Donc on voit bien que là, on est dans une situation particulière en France. Troisième particularité, et là je reviendrai à l'enseignement secondaire par rapport aux pays du monde, il s'agit de la prédominance des mathématiques. En France, plus qu'ailleurs, les mathématiques sont fondamentales dans l'orientation des élèves. Dans l'étude PISA, on interrogeait les élèves à 15 ans vis-à-vis des mathématiques. On leur demandait, pensez-vous que vous avez une chance de réussite scolaire si vos performances en mathématiques ne sont pas bonnes? Et la plupart des élèves estimaient que non. Beaucoup plus fort, cette statistique était beaucoup plus forte qu'ailleurs. Un élève en France, quand il ne réussit pas en mathématiques, a l'impression qu'il n'a aucune chance de faire une carrière, que ce soit une carrière dans le secondaire, que ce soit d'avoir une carrière dans une formation universitaire, de trouver un débouché, de trouver un travail. Et là, on voit bien qu'on est dans une spécificité française où, quelque part, il y a une pression très forte des élèves par rapport aux mathématiques et beaucoup plus forte qu'ailleurs. D'ailleurs, on le retrouvait aussi dans la statistique sur le degré d'anxiété des élèves à 15 ans, où quand on faisait un comparatif, les élèves français étaient parmi les plus anxieux du monde avec les élèves japonais et coréens vis-à-vis de l'enseignement des mathématiques, la peur d'échec. Et paradoxalement, quand on regardait le plaisir dans l'apprentissage des sciences, les élèves français étaient parmi les élèves qui prenaient le plus de plaisir. Donc là, on voit bien qu'on est un système d'éducation qui, outre les inégalités, produit des effets sur les élèves, des effets de pression, de stress, et qui sont finalement nuisibles pour l'économie d'un pays, car si un élève a cette impression que la réussite passe par des bonnes performances en mathématiques, on peut s'interroger aussi sur le choix des carrières, c'est-à-dire qu'un élève va s'orienter vers une filière scientifique, même s'il a des dons pour d'autres matières, qui au final lui donnera peut-être un métier dans lequel il ne s'épanouira pas. Si on regarde les inégalités du système d'éducation français, quand on compare la France vis-à-vis des autres pays, on a une performance moyenne et on a des inégalités qui sont plus fortes qu'ailleurs. La France n'est pas le seul pays avec des inégalités. On pourrait citer parmi les pays européens le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui sont des pays aussi où il y a de grandes inégalités. Mais quand on regarde différentes statistiques, on constate que la France a plus d'inégalités qu'ailleurs. Des inégalités entre les établissements. Quand on regarde les différentes catégories socio-professionnelles dans les établissements, il y a des chiffres assez fascinants. Quand on regarde les EP, les écoles ambition réussite, on constate qu'il y a 73% d'élèves dont les parents sont ouvriers ou inactifs dans ces écoles. Alors quand on sort de la zone d'éducation prioritaire, ce chiffre descend au niveau de 23%. Donc on voit bien qu'il y a certaines inégalités très fortes entre les écoles. Il y a des inégalités également très marquées dans la réussite en fonction du milieu social. En France, un élève qui provient d'un milieu social défavorisé a 4 fois plus de chances d'être parmi les mauvais élèves dans PISA, des élèves qui réussissent le moins bien, qu'un élève qui vient des milieux favorisés. La statistique moyenne des pays de l'OCDE, c'est autour de 3 fois plus de chances. Donc on voit bien que ces inégalités existent, et pourtant il y a des pays où ces inégalités sont plus fortes. L'étude PISA, finalement, a eu un grand succès quand elle est sortie, parce que l'Allemagne, qui était finalement un des systèmes de référence aussi pour la France en matière d'éducation, en matière de liberté accordée aux élèves, en matière d'intégration sur le marché du travail, a beaucoup souffert quelque part des résultats de l'étude PISA, car la performance des élèves était mauvaise en Allemagne, et surtout les inégalités étaient très fortes. Et ce qui ressortait, la raison première de cette forte inégalité en Allemagne, provenait justement de cette différenciation scolaire très tôt. Vous avez l'Allemagne, vous avez la Suisse, vous avez l'Autriche, où dès l'âge de 11 ans, les élèves sont orientés vers des filières générales ou des filières professionnelles, où finalement, le choix du métier est déjà fait, et toutes ces tendances ont un impact très négatif sur les inégalités. Ces pays-là sont les pays où les inégalités par établissement sont les plus fortes. Donc quelque part, ça va dans le sens du collège unique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la réussite à l'intérieur du collège unique, mais ça veut dire que les pays qui gardent le plus longtemps possible les élèves ensemble sont aussi les pays qui, en général, réussissent mieux. C'est vraiment une des statistiques qui ressort de PISA. Quelque part, c'est assez logique. Parce que quelque part, laisser les élèves plus longtemps ensemble, c'est un moyen de leur donner la chance de rattraper le retard quand il y a un retard en matière d'éducation. Souvent, on parle d'intégration des immigrés. Une des critiques sur l'étude PISA, c'est oui, mais la Finlande réussit bien parce qu'il n'y a pas d'immigrés en Finlande, alors que la France, il y a beaucoup d'immigrés, donc c'est normal d'avoir plus d'inégalités. Mais ce qui ressort de PISA, c'est aussi que certains pays, avec de fortes proportions d'immigrés, ont une réussite de leur système d'éducation, car ils ont des politiques pour l'insertion des immigrés qui sont très efficaces. Je vais vous citer deux pays, la Suède et le Canada, qui réussissent à l'insertion des immigrés, et on constate vraiment dans notre statistique une amélioration des performances entre les élèves de première et de deuxième génération, et pour des raisons qui sont très différentes. Vous avez un pays comme la Suède, quand un immigré arrive en Suède, il est obligé, dès son arrivée, de s'inscrire à des cours de langue. C'est une des mesures obligatoires qui fait partie de l'obtention de son visa. C'est-à-dire que dès l'arrivée dans le pays, il y a le système d'éducation, car ces cours sont organisés à l'intérieur de l'école, qui prend en charge justement ce problème et qui permet d'avoir une efficacité qu'on retrouve chez les élèves de première génération, chez les enfants des immigrés en Suède. Au Canada, autre raison du succès, quand on regarde les manuels scolaires. Le manuel scolaire au Canada, au Québec notamment, intègre toutes les cultures. C'est-à-dire l'élève, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, à travers le manuel scolaire, il a un moyen de s'identifier au système d'éducation. Et cette identification permet justement le bien-être des élèves et le fait qu'ils se sentent insérés à l'intérieur de l'école. Ces deux mesures dans ces deux pays sont fondamentales et ont été très utiles pour la réduction des inégalités. Alors j'aimerais vous parler de qu'est-ce qui marche ailleurs. Parce que l'étude PISA maintenant existe depuis 10 ans, donc on a différents paramètres qui permettent d'expliquer quels sont les pays qui réussissent. On pourrait associer un pays qui réussit finalement à un pays qui permet d'avoir une bonne performance pour ses élèves, qui est équitable, qui maintient une équité. Et finalement, si on résume en termes de performance économique, qui est le moins coûteux possible pour un État, quelque part, associer qualité, équité et efficience, c'est-à-dire peu argent ou investissement modéré, ça serait les pays idéaux, et ils existent. Dans l'étude PISA, vous avez la Finlande, mais vous avez aussi le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, qui sont des pays qui arrivent à associer ces trois paramètres. Et qu'est-ce qui fait finalement la réussite de ces systèmes d'éducation? Souvent, on remarque que par rapport à la France, les chefs d'établissement ont plus d'autonomie. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, quand on est chef d'établissement, il est très difficile d'avoir une politique d'éducation. On ne peut pas recruter ses enseignants. On peut un peu plus maintenant dans les aides, mais malgré tout, l'autonomie des chefs d'établissement est limitée. On a du mal à définir des mesures de politique d'éducation par rapport à l'argent. L'argent, il y a un budget d'éducation, mais les chefs d'établissement n'ont pas forcément la liberté de décider des mesures qu'ils vont faire, de l'utilisation qu'ils vont faire de cet argent. Si vous prenez un pays comme les Pays-Bas, où l'autonomie des chefs d'établissement est très forte, un chef d'établissement dans une ZEP aux Pays-Bas va avoir le moyen d'utiliser son argent, de recruter ses enseignants, de définir une politique d'éducation, c'est-à-dire certaines écoles aux Pays-Bas organisent du soutien scolaire à l'intérieur de l'école. C'est un moyen d'aider les élèves en difficulté. L'argent est utilisé justement pour faire ce soutien scolaire et pour permettre aux élèves qui ont du retard de le rattraper. Dans d'autres écoles, l'argent va être investi pour permettre de développer certaines options. Il y a vraiment cette liberté et cet ajustement au niveau des élèves. Et cet ajustement de la politique, des décisions, du manuel scolaire, aussi des compétences qu'on veut que les élèves connaissent à la fin de chaque année, qui vont pouvoir s'adapter réellement au niveau des élèves. En France, on n'est pas dans cette situation où quelque part, quel que soit le type d'école, on a un manuel scolaire, on a un enseignant qui se trouve face à sa classe et qui doit suivre son manuel scolaire, et les mesures pour le rattrapage scolaire, pour permettre aux élèves de rattraper leur retard, n'existent pas ou commencent à exister quand on parle de la réforme du primaire ou quand il y a des projets aujourd'hui de réforme du secondaire.
Un chiffre est frappant. En France, à l'âge de 15 ans, plus d'un élève sur trois aura redoublé au moins une fois. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, ce chiffre est de 10%. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le redoublement sans mettre des mesures à côté. Ça veut simplement dire que le redoublement, tel qu'il est fait aujourd'hui, de façon trop extrême, ne solutionne pas le problème, car toutes les études internationales ont montré que le redoublement n'est pas efficace dans la plupart des cas. Un autre modèle de réussite, donc l'autonomie des chefs d'établissement, il y a aussi les équipes pédagogiques, la cohésion des équipes pédagogiques, la cohésion des différents acteurs de l'éducation, c'est-à-dire quand enseignants et chefs d'établissement marchent dans le même sens, quand les parents finalement sont associés dans la réflexion sur l'école, ce sont des mesures qui sont efficaces pour l'école, qui sont efficaces déjà sur le bien-être des enseignants, qui se sentent bien dans leur métier, qui se sentent bien vis-à-vis de leur classe, vis-à-vis de leur pratique pédagogique. C'est vraiment des mesures qui sont fondamentales. On a l'exemple de la Finlande, et cette fois-ci, je crois que s'il y a un élément qu'on doit garder du modèle finlandais à appliquer en France, le succès du modèle finlandais, succès, finalement, c'est le seul pays nordique qui réussit très bien dans PISA. Ça provient essentiellement de son équipe pédagogique. Les enseignants sont bien formés, les enseignants sont recrutés, il y a une sélection très forte, ont des capacités, des connaissances académiques, mais aussi des capacités de psychologie, de communication, de transmission du savoir. Ils sont respectés dans la société. Un enseignant en Finlande est considéré comme quelqu'un qui occupe un poste important. Et tous ces éléments, finalement, donnent une dynamique très positive au système d'éducation. Le système d'éducation est assez similaire en Norvège, et pourtant, la formation des enseignants est moins poussée. Les enseignants sont moins reconnus dans la société. Ils se dispersent en enseignant plusieurs matières, et quelque part, on voit un grand écart de performance entre la Norvège et la Finlande. Donc, une équipe pédagogique soudée et des enseignants, et une formation des enseignants adaptée, ce sont des éléments pour une école qui réussit, pour une école égalitaire. Et là encore, pour terminer sur ce point, quand on regarde le salaire des enseignants en Finlande, il est au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc quelque part, ce n'est pas le salaire qui motive les enseignants à faire ce métier, c'est vraiment la reconnaissance. Un dernier point que j'aimerais aborder, ce sont finalement les méthodes pédagogiques qui sont utilisées. Aujourd'hui, on parle beaucoup comment rendre l'école plus égalitaire, comment supprimer les inégalités ou les diminuer. Mais on se rend compte qu'on est dans un système en France où les redoublements sont plus forts qu'ailleurs, où le nombre d'heures que vont recevoir les élèves est plus important qu'ailleurs, et où il y a donc un décrochage scolaire au fur et à mesure de l'année. Quand on regarde le temps de travail des enseignants, on voit qu'en France, plus qu'ailleurs, l'enseignant passe beaucoup de temps en dehors de sa classe, à préparer les cours, à corriger les copies, à justement essayer de suivre le manuel scolaire et d'avoir à la fin de l'année et réussi à faire passer tous les éléments de ce programme scolaire. Dans d'autres pays, il y a moins d'heures de cours. Le programme scolaire est plus réduit et on se focalise sur des compétences de base. Dans ces pays-là, la réussite moyenne des élèves est plus forte, les inégalités sont plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'en France, il faudrait forcément diminuer le volume horaire, mais ça voudrait dire qu'il faudrait penser différemment l'enseignement. Ce qui marche dans certains pays avec un volume horaire aussi important que la France, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce sont du travail en petits groupes. C'est-à-dire qu'il y a un manuel scolaire, il y a des exercices qui sont organisés à l'intérieur de la classe, et il y a un moyen pour l'enseignant de s'arrêter sur une notion et puis de faire des petits groupes de niveau, des petits groupes d'élèves, et de leur permettre à certains élèves qui sont en difficulté de rattraper leur retard sur cette notion, à certains élèves qui suivent mieux, de pouvoir développer et d'aller un petit peu plus loin. Et on voit bien que ce type de mesure a un effet positif sur le niveau moyen des élèves et sur les inégalités à l'intérieur des écoles. Donc je crois qu'en France aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir. Les inégalités, elles existent dans la plupart des écoles des pays de l'OCDE. Donc, quelque part, tous les pays font face à l'inégalité et doivent essayer de trouver des moyens pour la diminuer. Mais malgré tout, aujourd'hui, si en France elles sont plus fortes qu'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme, de réflexion forcément profonde du système d'éducation. J'exagère, il y a eu beaucoup de réflexions, mais qui n'ont pas suivi à des réformes des systèmes d'éducation. Donc parmi les pistes à envisager ou parmi les erreurs à corriger dans le système d'éducation, il s'agit vraiment d'avoir une réflexion dans le secondaire sur tous ces jeunes qui sortent sans diplôme aujourd'hui. 130 000 jeunes vont sortir chaque année sans diplôme du système d'éducation en France. C'est le cas aussi dans d'autres pays, mais la situation sur le marché de l'emploi de ces 130 000 jeunes en France est beaucoup plus précaire que dans un grand nombre de pays de l'OCDE, où l'insertion sur le marché du travail existe aussi quand on n'a pas de diplôme. Donc ça, c'est un des points. Un deuxième point sur lequel il est nécessaire d'avoir une réflexion, c'est justement diminuer le redoublement, permettre au minimum d'élèves de décrocher à la fin de l'année. Il y a une perte vraiment importante aujourd'hui en France avec ce décrochage scolaire, avec ces redoublements. Donc il s'agit de mettre en place des mesures qui vont permettre au final de réduire les inégalités. Le soutien scolaire à l'intérieur de l'école, c'est une mesure. La réduction du volume horaire, ce sont des mesures. Aujourd'hui, on pourrait croire que l'OCDE est donc supporter des réformes du primaire, mais quelque part, associer ce type de réforme et en même temps faire une réforme d'économie budgétaire à contre-emploi. Si vous prenez la réforme du primaire aujourd'hui en France, on a diminué le volume horaire. C'est très bien. On fait du soutien scolaire pour permettre aux élèves de rattraper leur retard, c'est très bien. Par contre, on ferme les écoles le samedi. Donc quelque part, ça veut dire que les journées deviennent toujours aussi chargées. Au lieu que la semaine scolaire dure 4 journées et demie, on réduit de 2 heures, mais on fait des journées de 4 jours. Donc quelque part, le problème reste le même. Les élèves, les journées sont trop longues et les élèves sont trop fatigués pour profiter du soutien scolaire. Donc là encore, quand on parle de réforme du système d'éducation, il faut faire attention de ne pas associer forcément les réformes budgétaires. Mais malgré tout, des réformes qui viseraient à réduire le nombre d'heures, à faire du soutien scolaire à l'intérieur de l'école, ce sont des réformes qui existent dans certains pays de l'OCDE et qui ont conduit en général à une amélioration des performances. Troisième point sur lequel il est nécessaire de travailler, et finalement ça aura aussi un impact sur les inégalités, il s'agit de l'orientation entre le secondaire et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, avec cette prédominance des mathématiques en France, il y a finalement une orientation qui se fait par défaut de certains élèves. Orientation par défaut vers des filières mathématiques dans le secondaire, c'est-à-dire les élèves qui réussissent bien vont forcément aller vers les mathématiques, même s'ils sont plus attirés sur les langues étrangères, sur la compréhension de l'écrit ou sur l'économie. Déficit d'orientation aussi entre le secondaire et l'université. Aujourd'hui, les filières universitaires scientifiques n'ont pas de problème pour avoir des débouchés, n'ont pas de problème pour attirer des élèves. Et vous regardez qu'il y a certaines filières, comme les sciences humaines, la psychologie, où il y a un déficit évident de débouchés sur le marché du travail. Donc il y a une orientation à améliorer pour permettre de diminuer l'échec scolaire à l'université, et une orientation et un contenu pédagogique des filières universitaires aussi à améliorer pour permettre à toutes les filières d'avoir de meilleurs débouchés sur le marché du travail. Donc je crois que si on pourrait croire que mon discours est un petit peu noir sur la situation de la France par rapport aux autres pays du monde, mais les inégalités, c'est un problème qui touche l'ensemble des problèmes. L'inaction, c'est vraiment la pire des solutions, et je crois qu'il y a différentes pistes aujourd'hui, différentes études, différents rapports, différentes bonnes propositions. Il y a les études de l'OCDE, mais il y a aussi le rapport à Paris, les rapports des coins, les études qui ont été faites par Marie Durubella, qui donnent des pistes pour pouvoir améliorer le système d'éducation. Et je crois que quelque part, un progrès ne passera que par des réformes.